Les Canuts, troisième partie, chapitre 11. Au Cordelier était le quartier général de l'insurrection. La position était forte. Cette barricade, formée de voitures, de charrettes renversées, de portes et de planches, fermait les 7 rues qui aboutissaient à la place. Ces remparts improvisés étaient défendus par des bandes d'hommes mal vêtus, mal armés. Les uns avaient des fusils de chasse, de mauvais pistolets, d'autres de vieux sabres, des piques. La plupart portaient des blouses avec des ceintures rouges. Quelques-uns étaient coiffés de bonnets rouges. Un homme avait sur ses vêtements une cuirasse de sapeur du génie. Au sommet de la colonne élevée au centre de la place et surmontée de la statue d'Urani, un drapeau rouge et un drapeau noir claquaient au vent dans le crépitement de la fusillade. Par groupe de 10, 20, 30 hommes, sous la conduite de leur chef de section, les insurgés se battaient bravement et se portaient ici ou là au hasard de la lutte. Les troupes n'approchaient pas. Les engagements n'avaient lieu qu'à distance, entre tirailleurs. Mais les décharges d'artillerie se succédaient sans cesse, à de courts intervalles. Le citoyen Lagrange commandait en chef. Coiffé d'un chapeau noir à larges bords, vêtu d'une redingote boutonnée jusqu'au cou, des pistolets et un poignard à sa ceinture rouge, il plaçait lui-même les sentinelles, préparait les renforts, se portait aux endroits les plus périlleux. Partout, on voyait sa haute taille dominant les groupes. L'œil ardent, les traits énergiques, il animait les hommes de la voix et du geste, franchissait les barricades par une simple planche jetée en travers, bravant les balles, parant à tous les dangers. Et, dans le tumulte du combat, des cornettes blanches paraissaient çà et là. Dévouant leur vie, les sœurs allaient partout où il y avait des malheureux à soulager, sans se laisser arrêter, ni par le sifflement des balles, ni par les injures. Un corps de garde était installé au café Cantaloupi, à l'angle des Cordeliers. Les insurgés buvaient à crédit. Après la victoire, ils paieraient sur la caisse de la République. On avait commencé à apporter des blessés. L'un d'eux, étendu sur le billard, l'inondait de son sang. Des divers points de la ville, après 1000 dangers, des envoyés accouraient rendre compte des progrès de l'émeute et prendre de nouveaux ordres. Devant le café, Lagrange les recevait, se reposant un moment à cheval sur une chaise. « Mon général, » dit un homme essoufflé, noir de poudre. « Parlez vite, vous venez ?»« De Vèze. Qui vous envoie ?» Le citoyen Reverchon. Nous avons pris la mairie et la caserne de gendarmerie, délivré et incorporé dans nos rangs 30 soldats disciplinaires qu'on emmenait à Alger. Le magasin d'équipement des dragons est tombé entre nos mains et nous l'avons mis au pillage. C'est bien, très bien. Gardez-vous avec soin. Perrache est encore à la garnison, mais je tiens essentiellement à ce que les communications avec Paris restent interceptées. Comptez sur nous, mon général. Nous tiendrons jusqu'à la mort.
Vous avez des armes pour tous les hommes ?
Ah, pas pour tous, mon général.
Eh bien, dites à Reverchon d'envoyer des sectionnaires dans les villages pour désarmer les gardes nationales. Allez !
Sans un mot de plus, l'envoyé salua et se remit en route, à travers les balles. Lagrange était retourné aux barricades. Bientôt, on alla le prévenir de l'arrivée d'un autre émissaire. Celui-là venait de Saint-Just. Il apportait une grosse nouvelle. Les patriotes s'étaient emparés de la caserne de Saint-Irénée et l'avaient livrée aux flammes. Mais les incendies se multipliaient. Un bateau chargé de foin qui descendait la Saône avait été embrasé par un obus et était allé s'échouer contre la passerelle Chazourne. La passerelle était en feu.
« Peu importe la passerelle, » fit Lagrange, haussant les épaules.
Mais l'occupation de la caserne Saint-Irénée nous sera précieuse.
un troisième messager arriva. Les citoyens Carrier et Gautier l'envoyaient dire qu'il tenait bon à la Croix-Rousse. Tout le centre était à eux. La caserne du Bon Pasteur était tombée en leur pouvoir et les fusils qu'il y avait trouvés servaient à armer le peuple. Enfin, ils comptaient prendre bientôt l'offensive et tenter une attaque sur les terreaux.
« Bravo, bravo !» s'écria Lagrange.
« Et vive la République, citoyens !» Se tournant vers Hugon, qui était son état-major, « Comment le général Aymard a-t-il donc fait son compte ? » ajouta-t-il avec un sourire hautain.
« On dirait qu'il s'est amusé à dégarnir de troupes toutes les positions qui entourent la ville. »
« C'est vrai, » répondit Hugon. « Tous les efforts semblent concentrés sur nous. »
« Allons, » reprit Lagrange, se levant. « Nous aurons ici un rude assaut à soutenir. »
Et, congédiant le messager, il s'écria, au milieu d'un convoi de blessés,
« Eh bien, nous puiserons notre force dans notre audace, et notre audace dans la grandeur même de notre péril. »
Aux barricades, la fusillade continuait, meurtrière. À chaque instant, des insurgés traversaient la place, conduisant des blessés au café Cantaloupi ou dans les boutiques voisines. Marius, qui avait la garde de l'église Saint-Bonaventure et de ses abords, venait de faire transporter à la pharmacie Guichard, un ouvrier blessé par un éclat d'obus. Il quittait le pharmacien, lui recommandant ce camarade, quand un homme de sa section vint lui annoncer qu'une jeune fille et un petit garçon demandaient à lui parler. Il pressa le pas. Devant l'église, il aperçut Louise et Eugène qui l'attendaient. Surpris, effrayé,
« Oh mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Que venez-vous faire ici ? La maison est incendiée ? Il est arrivé malheur à votre mère ?»
Louise, rougissante, baissait la tête. Son frère répondit. « Ils avaient craint qu'il n'eût été blessé au passage de l'Argue. Louise avait voulu aller à sa recherche. » L'enfant raconta la nuit passée à l'Hôtel-Dieu, la rencontre de Simon blessé.
« Il nous a dit que vous deviez être ici, » ajouta-t-il.
« Et nous sommes venus. »
Marius comprit tout. Il se rappela le dévouement de Louise pour ses parents, les conseils qu'elle lui avait donnés, les douces paroles qu'elle lui disait pour le consoler dans sa douleur, après la mort de sa mère et la triste maladie du père Jacquemin. Il fut ému.
« Louise, » dit-il, « que vous êtes bonne et que je mérite peu votre affection. Fou que je suis !» ajouta-t-il comme se parlant à lui-même.
Prenant les mains de la jeune fille, il les pressa dans les siennes. N'osant l'embrasser, il embrassa Eugène.
« Toi aussi, » reprit-il, « tu es un brave petit cœur. Mais qu'allez-vous devenir, pauvres enfants, au milieu de tant de dangers ? Il n'est plus possible de vous reconduire à la Croix-Rousse. Tous les passages sont gardés. Vous serez tués 10 fois. Pourtant, que je voudrais vous rendre ce que vous avez fait pour moi.
Mais vous le pouvez, Marius. À la nuit, retournez avec nous.
Grand Dieu, pourquoi vous battre ? Pourquoi exposer votre vie ?
J'en ai fait depuis longtemps le sacrifice. Mourir pour la liberté. Après tout, ça vaut bien une existence faite de misère et de lâcheté.
Vous aurez beau vous sacrifier, Marius, les autres ne seront pas plus heureux. Les riches seront toujours les maîtres.
Et puis, ajouta-t-elle d'une voix tremblante, c'est un crime de tuer.
C'est la guerre, murmura-t-il, gêné.
Non, la guerre civile, ce n'est plus la même chose. Oh, croyez-moi, Marius, il est encore temps.
Ce que vous me demandez, Louise, est impossible. Ce serait lâche de fuir au moment du péril.
Eh bien, je reste avec vous. Je soignerai les blessés, je ferai ce que je pourrai.
Mais je ne veux pas vous quitter, ajouta-t-elle plus bas.
À ce moment, 2 insurgés traversaient la place, portant péniblement une lourde porte d'allée arrachée à une maison voisine. Ils s'acheminaient avec leur fardeau vers la prochaine barricade.
les troupes venaient de placer une batterie à la tête orientale du pont Lafayette.
Soudain, une volée de mitraille balayant la place renversa les deux ouvriers.
L'un fut tué sur le coup, l'autre tomba écrasé sous la porte de chêne. Sa tête paraissait, une écume sanglante aux lèvres, les yeux ouverts, horribles,
sortant de leur orbite.
Louise se détourna, très pâle. On emporta les deux cadavres. Aussitôt, des insurgés montés sur les toits et abrités par les cheminées commencèrent le feu dans la direction du pont Lafayette, sur les servants de la batterie. Marius poussa devant lui la jeune fille et son frère.
« Vite, dans l'église ! Ici, vous êtes exposés !»
Tout était bouleversé à l'intérieur de l'église. Dans une chapelle latérale, étaient amoncelés des vivres. Dans une autre, des ouvriers fabriquaient de la poudre. Plus loin, autour de brasiers ardents, on fondait des balles. La poudre séchait dans une petite nef près de la chapelle de Saint-Jacques. Des insurgés la manipulaient et en faisaient des cartouches sur des tables alignées le long des murs. Tout auprès, les combattants buvaient et mangeaient.
Saint Bonaventure n'était plus qu'un arsenal de l'émeute.
Le matin même, le clergé de la paroisse avait à la hâte dépouillé les autels et emporté le Saint-Sacrement au presbytère. La chapelle des fonts baptismaux était transformée en ambulance. Les bancs de l'église, renversés et couverts de paille, servaient de lit aux blessés. Un chirurgien les pansait. Des femmes d'insurgés, qui n'avaient pas voulu se séparer de leur mari, faisaient de la charpie. Et sur l'autel étaient rangées des fioles et des médicaments donnés par les pharmaciens du quartier. Au milieu du vacarme du tocsin, de la canonnade qui ébranlait le beffroi, les prêtres prodiguaient leur secours aux blessés et leur donnaient l'onction des mourants. C'était un concert navrant de cris de douleur et de voix râlantes. On venait d'apporter une femme qui s'était aventurée sur la place. Elle étouffait, la poitrine percée d'une balle. La jugeant perdue, le chirurgien l'avait abandonnée pour aller à d'autres victimes. Mais l'abbé Pérard était accouru. De la main gauche, il serrait les lèvres de la blessure pour arrêter l'hémorragie et prolonger la vie quelques instants. Et de la main droite, il lui donnait l'extrême-onction. Son oraison n'était pas terminée, que la malheureuse expirait. Louise, à ce spectacle, offrit aussitôt ses services aux femmes qui soignaient les blessés. Elle aussi se dévouerait, soulagerait ses douleurs, aiderait ses hommes aigris à se repentir et à mourir tranquille. « Vraiment, mon enfant, lui dit une vieille dame, vous n'aurez pas peur. Leurs plaies et leurs blasphèmes ne vous rebuteront pas. Oh non, madame. Eh bien, puisque vous êtes si courageuse, mettez ce tablier et venez avec moi. » Avant de s'éloigner, Marius fit promettre à Louise et à son frère de ne pas sortir. Il viendrait les voir plusieurs fois dans la journée, puisque c'était à lui que la garde de l'église était confiée. Dehors, la lutte continuait furieuse. L'éteintement du tocsin et le crépitement de la fusillade se succédaient sans relâche. Les caissons d'artillerie, approvisionnant les batteries, roulaient sourdement. Le canon tonnait de sa voix puissante dominant le tumulte. Comme Marius sortait de l'église, il aperçut un attroupement de l'autre côté de la place, devant le café Cantaloupi. La plupart des chefs, le capitaine Tourès, Hugon, Caussidière père, Paco en uniforme de musicien de la garde nationale, étaient réunis autour de la grange. Sans doute, on venait d'apporter des nouvelles. Marius s'approcha. Au milieu du groupe, le quinturion d'une section de Saint-Georges répondait aux questions. Il avait eu beaucoup de peine à franchir les quais. Le poste de l'archevêché l'avait fouillé, quoiqu'il fût porteur d'une lettre pour un négociant des terreaux. À la voix, Marius reconnut Nerbollier. Il le laissa poursuivre son rapport. Dans la caserne Saint-Irénée, les insurgés de Saint-Just avaient trouvé deux canons mal encloués qu'ils étaient parvenus à mettre en état et les avaient traînés, à force de bras, sur la plateforme de Fourvière. Manquant de boulets, ils tiraient avec des pierres et des morceaux de vieux fer sur les troupes qui occupaient le quartier Saint-Jean. Les batteries, établies à Bellecour, leur répondaient, criblant de boulets la façade de Fourvière. Et tout à côté, un pavillon flambait, incendié par un obus. « Allons, la fête bat son plein !» dit Hugon, inquiet. « Comptez-vous tenir longtemps là-haut ? » demanda Lagrange. « Longtemps, ce n'est pas probable, » reprit Nerbollier. « Demain soir, nos munitions seront épuisées. D'ailleurs, les sections de Saint-Just et de Saint-Georges se désorganisent, les hommes se découragent. Le commandant Drigard des Garniers est venu de Vèze avec une bande de disciplinaires et un ramassis d'inconnus qui veulent imposer brutalement leur autorité et mettre le désordre partout. » Lagrange, frappant du pied, lâcha un juron. « Des étrangers ! Allemands, Italiens, Polonais ! Je les connais trop, ces gens-là ! J'avais prévenu Reverchon. Il aurait dû s'en méfier. Si ces canailles commandent, nous sommes perdus. Je le crains, mon général. Ah, ce sont des traîtres, s'écria Caussidière. Payés avec l'argent de l'étranger pour tuer notre industrie, ajouta Hugon. La cause républicaine leur importe peu. Comme Lagrange s'était retourné pour entendre un ouvrier qui venait de la barricade du quai, Marius s'était avancé jusqu'au milieu du groupe et, frappant sur l'épaule de son camarade, « Nerbollier, » dit-il. « Marius, toi ici !» Les deux amis se serrèrent la main. Marius raconta ce qu'il était devenu depuis le commencement de l'insurrection. « Mais tu restes avec nous » ajouta-t-il. « Je le voudrais. Ici, je rendrai plus de service. » Lagrange s'était rapproché. « Oui, oui, citoyen, » dit-il. « Je vous garde. J'ai besoin de tous les hommes. » Il venait d'apprendre que des soldats, protégés par le feu des batteries, s'aventuraient en tirailleurs jusqu'au milieu du pont Lafayette et commençaient à devenir gênants. Il importait de les débusquer au plus tôt par un feu nourri. Lagrange donna ordre à Marius de prendre 10 hommes et de monter au 4e étage d'une maison qu'il lui indiqua. Nerbollier l'accompagnerait. Marius obéit aussitôt. Avec Nerbollier et une poignée d'hommes, il monta dans la maison et frappa vivement à la porte de l'étage désigné. 2 femmes vinrent ouvrir. Saisies de crainte, elles demandaient grâce pour la vie. « Oh, ne craignez rien !» dit Marius. « Nous ne sommes pas des brigands. Retirez-vous dans les chambres qui donnent sur la cour, » ajouta Nerbollier. « On ne vous inquiétera pas. » « Oh, grand Dieu ! Mais vous allez faire tirer sur la maison ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» reprit gaiement Nerbollier. « C'est nous qui avalerons les prunes. Si vos meubles sont endommagés, la République les paiera. » Les 2 femmes, continuant de gémir, enlevèrent précipitamment ce qu'il y avait de précieux dans les pièces du devant et se retirèrent dans une chambre donnant sur la cour. Marius posta ses hommes aux fenêtres et fit aussitôt commencer le feu. La position était bonne. Bientôt, les tirailleurs se retirèrent graduellement et, sous une grêle de balles, laissant derrière eux 7 ou 8 morts, se replièrent de l'autre côté du pont. Des hurrahs bruyants partirent de la barricade. 4 ou 5 insurgés, insoucieux de leur vie, franchirent la muraille improvisée qui les abritait et coururent jusqu'au milieu du pont, narguant les soldats à travers les balles. À la hâte, ils dépouillèrent les morts de leurs gibernes pour renouveler leurs munitions épuisées, puis, sains et saufs, regagnèrent la barricade, salués par les acclamations des leurs. La nuit approchait. Peu à peu, les coups de feu se firent plus rares, puis cessèrent de part et d'autre. Des fenêtres de la maison du quai, Marius et ses compagnons voyaient là-bas, sur le cours Bourbon, les soldats formaient les faisceaux et allumaient des feux de bivouac pour préparer la soupe. Le temps était humide et triste, le ciel plombé. De grands nuages noirs, chargés de neige, s'amoncelaient à l'Orient. accoudés à une fenêtre, Marius et Nerbollier songeaient. Qu'adviendrait-il de cette révolte? On n'avait encore aucune nouvelle des villes voisines. Elles devaient pourtant se soulever et venir au secours des ouvriers lyonnais. Seuls, pourraient-ils résister longtemps? Les troupes devaient avoir fait des progrès dans la journée, car depuis le matin, on n'avait plus reçu de nouvelles, ni de Vaise, ni de la Guillotière. Longtemps, ils demeurèrent immobiles, n'osant se communiquer leurs impressions. On n'entendait plus que des coups de feu isolés, éclatant au loin vers la Guillotière. Bientôt, tout rentra dans le silence. La nuit ramenait la trêve. Alors, laissant deux hommes en observation, Marius redescendit avec le reste de sa petite troupe pour aller reprendre la garde de l'église. « À propos, » dit-il à Nerbollier, « figure-toi que Louise et Eugène sont venus me rejoindre. »« Louise, ta voisine ?»« Oui, Louise Denegris. » Elle savait que je m'étais trouvé à l'engagement du passage de l'Argue et me croyait mort ou blessé. « Tu vas la voir. Elle travaille à l'ambulance de Saint-Bonaventure. » « Elle t'aime donc bien, cette petite ?» Marius ne répondit pas. La pauvre fille, oh oui, elle l'aimait. Il le lui rendait bien, à présent. Pourquoi n'avait-il pas vu plus tôt le bonheur qui était si près de lui? Ils traversèrent la place. Des insurgés étaient étendus sur de la paille autour de grands feux qu'ils avaient allumés. Les flammes vacillantes éclairaient leurs visages fatigués. La plupart, trop las ou découragés, gardaient un morne silence. D'autres, ivres d'eau-de-vie, erraient à travers la place, hurlant comme des possédés. Un d'eux, gesticulant avec un sabre au pied de la statue d'Uranie, lui criait des injures et répétait qu'il se ferait casser la gueule pour la liberté. Du café Cantalupi sortait un faisceau de lumière. Sur les vitres, on voyait passer des silhouettes d'hommes armés de fusils. Des chants et des rires emplissaient la salle. Marius s'approcha de la sentinelle qui gardait la porte de l'église. « Rien de nouveau ? » demanda-t-il. « Non, citoyen, » répondit l'insurgé. « C'est bon. » Et, poussant la lourde porte, il entra, suivi de Nerbollier.